Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un livre qui s'appelle « Sécurité informatique pour les DSI, RSSI et administrateurs ». Et pour en discuter, nous recevons une bonne partie de ses co-auteurs. Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Donc nous recevons plus particulièrement Harry Kokos. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que tu veux bien te présenter ?
Tout à fait. Donc, Harry Kokos, ancien auditeur et pentester, devenu entre-temps consultant et à l'occasion auteur avec différentes personnes présentes ici.
Alexandre Anzala Yamajako.
Bonjour. Je suis ingénieur de cryptographie en recherche et développement à Thales Communications et donc également co-auteur de ce livre.
Laurent Bloch.
Bonjour. Alors, j'étais à l'époque de la première édition du bouquin RSSI de l'INSERM. Là, actuellement, je fais plutôt de la recherche en cyberstratégie avec l'Institut de l'économie et la chaire Castex de cyberstratégie. Entre-temps, j'ai été DSI.
Arnaud Soulier.
Bonjour. Donc, je m'appelle Arnaud Soulier. Je travaille chez Wavestone et je réalise des audits de sécurité et des pentests depuis un peu plus de 6 ans maintenant.
Et on peut dire qu'à tes heures perdues, tu es également contributeur No Limites Sécu.
Exactement. Dès que je peux, j'essaie de participer.
Et nous recevons également Thomas Debise. Bonjour Thomas.
Bonjour. Du coup, comme Arnaud, je travaille chez Wavestone et comme Harry aussi. Et du coup, je fais aussi des thèses d'intrusion et des missions de conseil classiques depuis 5 ans.
Et donc, pour discuter avec eux, les contributeurs No Limites Sécu sont Hervé Schauer.
Bonjour.
Nicolas Ruff.
Bonjour.
Sébastien Joria.
Bonjour.
Et moi-même, Johan Ulloa. Alors, Laurent Bloch, il s'agit quand même de la 5e édition de ce livre.
Oui.
Est-ce que tu peux nous faire un peu l'historique ?
Alors, à l'époque de la première édition, j'étais donc RSSI à l'INSERM, et puis je donnais des cours à l'Université Paris 12. Et c'est Muriel Shanseifan, éditrice chez Erol, qui m'a suggéré de faire un bouquin. Nat Makarevich était le directeur de la collection. Il m'a dit qu'il fallait parler de Windows Plus. Alors moi, Windows, je ne connais pas trop. Donc, je suis allé voir Christophe Wolfugel, qui s'est joint à moi. Et donc, on a fait la première édition. Il se trouve que ce bouquin a eu un certain succès dans le monde éducatif. Il y a pas mal d'institutions d'enseignement qui l'utilisent comme manuel. Parce que justement, il mélange à peu près... Il y a d'une part les aspects techniques, d'autre part les aspects sociopolitiques, on va dire, qui vont bien, il y a des aspects pratiques et des aspects un peu plus philosophiques, donc ce bouquin a du succès. Bon là, après 11 ans, il fallait vraiment revoir les choses, il y avait des nouvelles versions de Windows apparues, il y avait les smartphones qui s'étaient développés, donc j'ai lancé un appel au peuple sur la liste de l'OSIR pour avoir des participants qui pourraient contribuer sur ces nouveaux sujets, et donc c'est là que Harry... Arnaud, Thomas sont venus nous rejoindre. Et puis la partie crypto, alors un jour j'en ai parlé avec Alexandre, qui travaille donc chez Thales sur ces sujets-là, sur les nouveaux sujets de crypto. Il m'a dit oui, on est en train de travailler sur des nouveaux algorithmes, éventuellement post-quantiques, des choses comme ça. J'ai dit très bien, est-ce que tu veux pas reprendre le chapitre sur la crypto du bouquin ? Bon, parce qu'il y a un chapitre relativement important de crypto qui est un peu la base scientifique du bouquin, et donc Alexandre a revu tout ça, qui est nettement modernisé. Bon, par rapport à l'édition précédente, le volume du bouquin a doublé. Hein. Il y a notamment le chapitre Windows, qui est principalement l'œuvre d'Harry et d'Arnaud, qui est vraiment un gros chapitre sur Windows. Et puis alors, il y a le... Harry a aussi beaucoup travaillé sur la partie... Android et Thomas sur la partie iPhone. Donc voilà, on a essayé...
C'est l'inverse.
C'est l'inverse, ok.
Harry l'a plutôt fait iOS et moi plutôt Android.
Oui, pardon, je me suis un peu mélangé les pinceaux, parce que maintenant c'est devenu tellement gros que je... Voilà, et donc...
Oui, je crois qu'on peut dire que le bouquin est vraiment un sacré pavé et qui couvre quasiment tous les domaines du système d'information, depuis la géostratégie, la cyberguerre, jusqu'à la configuration de GPO sous Windows.
Oui, alors effectivement, j'ai rajouté un chapitre cyberstratégie à la fin pour, en fonction de mes nouvelles activités, plutôt du côté de l'école militaire. Et Voilà, alors l'idée, ça n'est pas de faire concurrence au mode d'emploi qu'on peut trouver sur le web, parce que ça, de toute façon, on ne pourra jamais aller assez vite. Ce n'est pas non plus de faire concurrence à des revues comme MISC, qui est une excellente revue. Donc, si on commence à essayer de partir là-dedans, de toute façon, on sera toujours en retard. L'idée, c'est plutôt d'avoir une vue relativement synthétique qui aborde tous les aspects de la sécurité informatique, qui donne une vue d'ensemble. C'est-à-dire que même un ingénieur très pointu pourra trouver de l'intérêt à ce livre pour avoir une vue d'ensemble des différents aspects. Notamment, il y a les aspects plutôt sociologiques. La sécurité ne peut pas marcher si on ne réussit pas à convaincre la hiérarchie de donner les budgets, de donner les prérogatives qui vont avec. La sécurité ne pourra pas marcher si on n'a pas des moyens de dialogue avec les utilisateurs, si on n'a pas des outils de politique informatique. Alors tout ça, c'est des aspects, si on peut dire, non techniques, mais qui sont néanmoins cruciaux. En gros, la sécurité doit marcher sur ses deux pieds, et c'est un peu ce qu'on a essayé de faire dans ce bouquin.
Aussi, ce que j'ai apprécié dans le livre, c'est qu'il y a un souci du français qui est extrêmement détaillé. Vous parlez de virus réticulaire, de palimpseste électronique, de mode souillé. J'avoue que j'ai lu que la cinquième édition, je n'ai pas comparé avec avec les éditions précédentes, mais l'ANSSI a dû être...
Alors, ce n'est pas tellement pour satisfaire l'ANSSI, c'est surtout mon passage dans le milieu universitaire. Il y a un souci de dire les choses en français. Bon, si on n'est pas capable d'expliquer les choses dans sa langue maternelle... Alors, je sais bien, dans l'argot quotidien des ingénieurs, on emploie beaucoup d'anglicisme, et on parle comme ça. D'ailleurs, toujours, quand nous mettons les expressions françaises, on met entre parenthèses l'expression anglaise que tout le monde utilise tout le temps. Mais je trouve que c'est extrêmement important de toujours dire les choses dans sa langue maternelle, parce que sinon, on ne fait que donner la preuve qu'on ne connaît ni le français, ni l'anglais, ni le sujet dont on parle. Donc c'est, voilà, d'essayer d'avoir un français correct me semble... Alors d'abord ça change par rapport à ce qu'on lit dans beaucoup d'occasions sur des sujets comme ça, et puis bon, c'est indispensable. Si on veut se faire entendre des responsables d'entreprise dont la sécurité dépend, hein, c'est inutile d'essayer de faire de la sécurité dans une entreprise si les patrons ne sont pas au courant et ne sont pas d'accord, hein, donc il faut bien les convaincre, et le jargon technique, eh ben, eux, ils ne le connaissent pas, hein, donc il faut bien leur parler.
Alors, j'ai relevé un certain nombre de citations. Alors déjà, ça commence par une préface d'Harvey Schauer qui dit « La sécurité est un échec ».
Oui.
Mais pas du tout, pas du tout. Harvey Schauer dit « La sécurité demande de la persévérance, de la volonté, de la motivation ». Parce qu'effectivement, bon, l'échec, oui, c'est souvent un échec. C'est un échec en apparence, mais c'est quelque chose qui est continu dans la durée. Voilà, bon. Moi j'ai la chance d'être depuis la toute première édition, et puis d'avoir indirectement contribué, de par mon enseignement de la 27001, à certains paragraphes du livre. Donc je suis très fier que ce soit devenu une encyclopédie au fil des 10 ans.
Alors, en parlant de 27001, justement, c'est marqué IS 27001 absolument partout. Est-ce que c'est à cause de l'ISO qui a le droit sur la marque et que vous n'avez pas pu dire ISO 27001 ?
Ah non, pas du tout. C'est au contraire, j'ai suivi le cours IS 27001 chez Hervé avec Alexandre Taureau. Ils nous ont bien expliqué que l'habitude de dire ISO 27001 était une habitude fautive et qu'il fallait dire IS 27001, International Standard. Alors, soit dit en passant, pour Hervé qui n'a lu que la première édition, il y avait effectivement des commentaires d'un certain scepticisme sur la 27001. J'attire l'attention d'Hervé sur le fait que ce scepticisme a été atténué dans les éditions récentes.
Oui, en fait, il n'y a pas beaucoup de choses que j'ai relues dans les versions suivantes, mais ça, je l'avais lu. Merci.
Enfin, j'ai quand même noté cette citation. L'entreprise recherche souvent par la certification IS 27001 une élévation morale supérieure.
Oui.
Alors, est-ce que c'est une critique ou est-ce que... Apparemment, ça a quand même l'air de dire qu'on fait de la 27001 pour aller au paradis, mais...
Non, mais
sur Terre, on peut faire le mal.
Aujourd'hui, la situation est inverse. Les gens se certifient 27 000 1 parce qu'il y a une partie prenante qui les y oblige.
Alors, il y a toujours une ambiguïté dans la recherche d'élévation morale. Hein. On peut supposer, on peut craindre que celui qui recherche l'élévation morale soit un tartuffe, un hypocrite. Hein. Mais on peut rechercher l'élévation morale pour de bons motifs. Hein. Je ne veux surtout pas mettre en doute cette possibilité. Simplement, il y a les deux. Voilà, la sécurité, c'est toujours comme ça. Il y a toujours une ambiguïté, un côté équivoque. Quoi. Ça fait partie du domaine.
Alors, j'ai relevé une autre citation qui, quand même, je pense, va donner lieu à débat. En France, l'absence de compétences techniques est devenue un atout déterminant pour l'accès au poste de direction.
Ah.
Alors, qui a écrit ce chapitre?
Oui, alors c'est un peu ce qui m'a motivé. Hein. C'est, nous sommes une...
Mais c'est vrai, ça. C'est... Moi, je confirme ce que dit Laurent. Hein. C'est tout à fait exact. Hein.
C'est vraiment l'expérience de mes 45 ans de vie professionnelle. Hein. On est un pays où les gens se vantent de n'avoir... Enfin, plus tout à fait maintenant, mais il n'y a encore pas très longtemps, les gens se vantaient de ne jamais avoir touché un clavier d'ordinateur. On est une société qui regarde vraiment vers l'arrière. Et bon, j'ai eu l'occasion dans d'autres livres de développer un peu plus ce point de vue. On est vraiment en risque de devenir un pays sous-développé à cause de ça. Pas simplement dans le domaine de la sécurité, dans tout le domaine de la vision moderne, c'est-à-dire que on part du proverbe idiot, la guerre est une chose trop sérieuse pour la confier aux militaires. Alors ça se transpose, l'informatique est une affaire trop sérieuse pour la confier aux informaticiens. Alors, il y a du vrai, hein, c'est-à-dire il ne faut pas que les informaticiens tout seuls fassent leur petite cuisine dans leur coin, mais il faut que les informaticiens soient aux manettes. C'est-à-dire, finalement, l'endroit où, à l'INSERM, j'avais réussi à avoir ça, c'est-à-dire qu'en tant que RSSI, je rapportais directement au directeur général. Ce qui me donnait les moyens, alors je ne peux pas dire que j'ai obtenu forcément des succès extraordinaires de cette façon-là, mais enfin au moins j'avais un interlocuteur. Tandis que quand j'étais à Dauphine, par exemple, alors là j'étais DSI, le président a voulu que le RSSI soit sous mon autorité. J'ai dit non, pas du tout, il ne faut pas qu'il soit chez moi, il faut qu'il rapporte directement chez vous pour pouvoir dire du mal de moi. Il n'a jamais rien voulu entendre.
Et on comprend tout de suite ce que dit Laurent Bloch sur ce sujet-là. Quand on compare la capacité de Barack Obama à comprendre le numérique et les nouvelles technologies, et une forme de difficulté, pour pas dire pire, de certaines classes politiques de certains pays européens à comprendre les mêmes technologies et leurs enjeux. Et à l'intérieur des entreprises, on retrouve le même phénomène, où malheureusement, c'est celui qui est le plus politique et pas nécessairement celui qui comprend les enjeux de l'avenir technologique de la société de demain, qui va être aux manettes.
Oui, tout à fait. Hein. Alors c'est bien simple, si on essaie de voir parmi les parlementaires français qui comprennent à peu près de quoi il s'agit, ben, il y en a quatre. Il y a Catherine Morin-Desailly, il y a Isabelle Attard, il y a Laure de la Rodière et il y a Corinne Hérelle. Voilà, on a fait le tour. Ces quatre femmes, ce n'est pas par hasard. C'est parce que les hommes avides de pouvoir ont préféré s'occuper de choses qui seraient mieux pour leur carrière. Donc on laisse les choses informatiques à des dames parce qu'on pense que comme ça, elles n'arriveront pas à grand-chose. Cela dit, elles font des efforts tout à fait louables, mais qui malheureusement sont un peu solitaires. Ne nous cachons pas la réalité. D'un point de vue de la révolution industrielle informatique, nous sommes en juin 40. Nous sommes dans une situation qui est l'équivalent de juin 40. Enfin bon, la sécurité là-dedans n'est peut-être qu'un aspect, pas le principal. La situation est plus grave que ça. Bon, on pourrait peut-être revenir à la sécurité, hein, parce que...
Oui, on fera un épisode dédié à la situation de la France en matière de politique industrielle informatique. Bon, alors, par quoi on commence? Par la crypto post-quantique, par
exemple. Voilà, je pense qu'Alexandre peut donner des...
Est-ce qu'aujourd'hui, la crypto post-quantique, c'est un problème de RSSI?
Est-ce que la crypto post-quantique, c'est un problème de RSSI? Alors, je pense qu'aujourd'hui, la crypto post-quantique, ça ne devrait pas être un problème de RSSI. Par contre, en tant que cryptologue, et il est important de se poser la question de savoir ce qui vont être les prochaines problématiques, ce qui pourrait bientôt être les problématiques du RSSI. Et je pense qu'il est important aussi pour RSSI, même si ce n'est pas une problématique qu'il a tous les jours, de savoir ce qu'il attend et de pouvoir distinguer le vrai du faux quand il va lire des articles parfois un peu alarmants dans la presse plus ou moins spécialisée sur l'avènement de l'ordinateur quantique et sur l'échec complet de la cryptographie qu'on utilise tous les jours.
Donc Google a bien fait d'activer le CECPQ1 dans Chrome, où il faut le filtrer sur son firewall.
Je dirais qu'aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, ce qui se passe à la fois dans les protocoles de communication au niveau crypto, aujourd'hui, on commence à réfléchir à mettre en place des moyens de sécuriser les communications qui sont à la fois sûrs au sens de la sécurité pré-quantique et sûrs à la fois au sens de la sécurité post-quantique, de sorte à ce qu'il faille casser les deux pour pouvoir accéder au Graal, donc au secret et au contenu même des communications. Maintenant, quand les décisions techniques des uns et des autres sont plus ou moins discutables et parfois reflète des politiques qui dépassent le cadre simplement technique. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette notion de sécurité post-quantique, elle est reprise un peu partout, notamment par le NIST qui vient de lancer un appel pour proposer, donc ça sera à la fin 2017, l'appel s'arrête à la fin 2017, proposer les prochains algorithmes qui devront faire l'objet d'un standard du prochain algorithme post-quantique pour sécuriser les communications.
Et qui a écrit le chapitre sur les buffers overflow et des choses comme ça?
C'est moi.
Alors j'ai relevé une coquille dans ce chapitre, justement. Oui. À un moment, il y a un petit encart qui dit quand même, si on avait agrandi les piles vers le haut plutôt que de les faire descendre vers le bas, on éviterait tous les problèmes d'exploitation de Stack Overflow. Et donc, dans le petit encart, c'est marqué, et c'est dommage que personne n'y ait pensé. Alors, je signale quand même que HPUX sur PA-RISC a une pile qui va vers le haut, puisque ça s'est déjà retrouvé dans des CTF. Et donc, en creusant sur Internet, j'ai remarqué que Multics faisait la même chose. Et Multics est cité dans le livre. Il y a tout un paragraphe consacré à Multics qui a inventé tous les concepts de sécurité informatique.
Et oui, Multics Power
fait plus un.
Alors, je dois avouer que j'ai utilisé Multics, j'ai regardé son système de sécurité, mais je ne connais pas les internals de Multics, pas plus que ceux de PA-UX. Mais effectivement, c'était des bonnes idées. Non, alors effectivement, Multics est à peu près disparu, mais on peut encore en trouver des traces archéologiques sur le web. Hein. Multics, c'était un système qui a toutes les bonnes idées et dont certaines devraient d'ailleurs revenir au premier plan bientôt. Notamment, il y avait une idée géniale dans Multics, et je pense que c'est vers ça que doit aller l'informatique si elle veut s'en sortir un jour, enfin les systèmes d'exploitation, c'est la suppression des fichiers. La distinction entre ce qui est la mémoire centrale et ce qui est la mémoire externe, ça n'a pas lieu d'être. C'était pour des raisons anciennes qui valaient dans les années 1950. Mais maintenant, ça n'a plus qu'une raison. Et d'ailleurs, il suffit d'essayer d'expliquer à quelqu'un qui n'est pas du métier la différence entre avoir quelque chose en mémoire et l'avoir sauvegardé sur le disque dur. On voit bien que c'est compliqué. Et c'est compliqué parce que ça n'a pas lieu d'être. La mémoire, ça devrait être une seule chose, et un attribut d'une page mémoire, ça pourrait être la persistance. Et ça permettrait d'avoir des choses bien plus sûres, et bien plus compréhensibles, et bien plus uniformes. Le système actuel à base de fichiers est un archaïsme. Et pour la sécurité aussi, ce serait mieux. Malheureusement...
À l'origine... IMAX faisait des trucs assez ignobles de ce point de vue-là, hein, puisque dans les toutes premières versions d'Emacs, en fait, pour quand on fermait le logiciel, en fait, il réécrivait l'exécutable sur disque pour sauvegarder l'état actuel du logiciel. Et la prochaine fois qu'on relançait Emacs, en fait, c'était le nouvel exécutable qui était réinstancié en mémoire avec toute sa configuration et ses fichiers ouverts. Autant dire que d'un point de vue, on va dire, maintenance du système, c'était pas forcément génial.
Ah, tout n'était peut-être pas parfait, hein. Bah, Emacs, c'est quand même pas si mal, enfin bon.
c'était un autre sujet d'émission.
Mais Emacs, c'est toujours très bien, moi je m'en sers tous les jours.
Moi aussi.
Moi j'utilise Sublime Text comme 90% des développeurs.
Alors pour revenir au livre, Thomas, toi tu t'es occupé, tu as écrit quelle partie de ce livre ?
La sécurité Android.
Est-ce que tu peux nous en dire deux mots ?
En fait, comme se plaît à le dire Laurent Bloch, c'est vrai qu'Android, donc, du coup il n'y avait pas du tout de partie qui traitait ça dans les précédentes versions. Et comme se plaît encore une fois à le dire Laurent Bloch, c'est quand même le système aujourd'hui d'exploitation le plus populaire. Et 80% des accès à des pages web sont faites depuis un système Android. De par le marché en fait assez low cost, hein, marché low cost et moyenne gamme aussi, et sur tous les formats, sur toutes les tablettes, sur tous les facteurs de forme. Du coup, la sécurité, c'est vrai que la sécurité de cet OS est assez intéressante, un OS aussi populaire. Et du coup, voilà, mon but, c'était vraiment de décortiquer, de démystifier, d'expliquer un peu les concepts fondamentaux de ce système, qui est assez proche, encore une fois, de Linux, avec qui le dépasse même peut-être en termes de sécurité aujourd'hui, avec tout ce qui est fait par défaut. Et du coup, voilà, mon but, c'était de démystifier ça en donnant des informations très précises et en descendant, encore une fois, assez bas dans les couches, jusqu'à, voilà, pour expliquer comment on passe des services Google à la facilité de reverse engineering sur les applications et tout ce que ça implique en termes de menaces pour les utilisateurs.
Ça risque pas de se périmer trop vite, ça, un chapitre sur Android, parce que c'est quand même un logiciel qui évolue assez rapidement en termes de spec et de... Je sais que ça évolue pas très vite sur les terminaux des end-users, mais sur le Git, il y a des nouvelles versions assez régulièrement.
Clairement, et ça se ressent, on va dire, dans la partie, au point où, vu qu'on, concrètement, à l'envers du décor, on a été amené à rédiger ça il y a un an, concrètement, à terminer ça. Dans ma partie, je parle du futur... la future version, la version 6. Aujourd'hui, c'est la version 7.
Mais 7.1 même.
Oui. Mais du coup, voilà, donc ça se ressent à ce niveau-là. Après, il y a eu quand même des grosses améliorations, surtout entre la version 2, 3 et 5. Après, il y a eu des petites améliorations qui sont quand même cruciales pour le 6, et aussi, encore une fois, des petites améliorations cruciales pour le 7. Mais quand même, le gros du travail a été fait quand même jusqu'à présent pour tenter de rattraper un peu iOS, mais qui avait quand même une sacrée longueur d'avance. Non, il y a 2-3 ans, quoi.
Enfin, de toute façon, quand on écrit un livre comme ça, on ne peut pas essayer de courir après toutes les innovations techniques au fur et à mesure qu'elles arrivent, hein. Donc, l'idée n'est pas de coller à l'actualité, parce que ça, c'est impossible, étant donné les délais de fabrication d'un ouvrage comme ça. L'idée, c'est de donner une idée de l'architecture générale et de donner au lecteur les moyens de retrouver l'information à jour sur le web, parce que c'est là que ça se trouve en général, hein. En connaissant au moins le vocabulaire, la terminologie utilisée par l'éditeur et les grandes lignes architecturales du produit. Je pense qu'à partir de là, ça peut donner les pointeurs nécessaires pour retrouver les informations dont on a besoin.
Merci Laurent. Et donc toi Harry, tu as écrit quel chapitre ?
Alors, de mon côté, j'ai coécrit avec Arnaud le chapitre sur Windows, un chapitre iOS, et après des parties, notamment avec Laurent, sur la partie effacement sécurisé et porte dérobée. Très rapidement, sur la partie effacement sécurisé, l'idée était surtout de rappeler certains concepts, notamment les différences en termes d'effacement sécurisé sur mémoire flash. Aujourd'hui, énormément de matériel que l'on trouve sur Internet traite surtout des disques magnétiques, donc on faisait à l'époque une réinscription, ce qui couvrait pas mal de risques. Et aujourd'hui, on a des systèmes qui sont majoritairement basés sur des mémoires flash, avec justement des mécanismes de wire leveling qui fait que ces mécanismes historiques ne sont pas forcément les plus efficaces. Donc voilà, on a rappelé à ce niveau-là un certain nombre de mesures à mettre en place avec des cas précis, par exemple sur des terminaux iOS, Android et autres. et également quelques aspects vis-à-vis de l'effacement sécurisé dans des services cloud qui aujourd'hui sont de plus en plus un problème qui est important, qui donc s'appuie principalement sur des mécanismes cryptographiques dans la mesure où ces derniers sont bien implémentés. L'autre chapitre étant sur les portes dérobées, donc quelque chose, on va dire, qui était bien connu dans certains milieux depuis longue date, mais qui est vraiment revenu sur le devant de la scène suite aux révélations il y a plus de 3 ans de cela d'Edward Snowden, et notamment de leur prise en compte dans certaines cibles de sécurité. Effectivement, une petite PME entrée en place sur le domaine stratégique ne sera pas forcément impactée par ce type d'éléments. En revanche, voilà, une entreprise travaillant dans un secteur sensible, elle peut l'être beaucoup plus, et il est important justement de faire des rappels à ce niveau-là pour voir en quelque sorte un panorama de ce qui était réalisable et de sensibiliser notamment certains décideurs sur la présence, on va dire quasi certaine dans certains environnements, de ce type de mécanisme.
Alors Arnaud Soulier, toi tu as écrit quel chapitre ?
Alors j'ai travaillé avec Harry sur la partie sécurité des systèmes Windows, qui n'est pas vraiment une nouvelle partie mais qui a été complètement refondue. Comme l'évoquait Laurent, ce qu'on a essayé de faire, c'est pas de coller absolument à l'actualité, hein, parce que si on regarde le livre, on verra qu'il y a une partie qui parle des nouveaux systèmes Windows qui sont... Windows 8.1 et serveur 2012, alors que bon, on commence quand même à déployer du Windows 10 et du serveur 2016. Ce qu'on a plutôt essayé de faire, c'est d'introduire les grands concepts, aussi bien au niveau de Windows, la gestion des utilisateurs, les systèmes de fichiers NTFS, ce genre de choses, les protocoles d'authentification, NTLM, Kerberos, et surtout une partie importante pour tout RSSI ou tout DSI, c'est la partie Active Directory, qui est quand même un élément central des systèmes d'information et que nous, en tant que pentester, on cible à chaque fois. Donc c'est ce qui nous a semblé important de préciser. On n'est pas rentré dans un niveau de détail qui permet directement de sécuriser ou de donner des consignes de configuration. En revanche, on essaie vraiment d'expliquer les concepts et les erreurs à éviter.
Oui, parce que finalement, il n'y a plus grand monde qui fait des guides de sécurisation aujourd'hui. C'est un petit peu passé de mode, non, cette activité?
Je crois qu'il y a l'agence qui en fait régulièrement. Et en plus, ils sont plutôt bien faits. Donc on peut en parler. Je crois qu'on les cite. Honnêtement, ceux qui concernent Active Directory sont vraiment bien faits. Et par ailleurs, nous, en tant que prestataire, on a quand même beaucoup, beaucoup de clients qui nous demandent de rédiger des guides de durcissement.
Mais aujourd'hui, c'est plutôt à base de Bastion et de choses comme ça, plutôt que d'aller chercher le petit setting de registry qui est positionné une fois à l'installation, puis 2 ans après, tout le monde a oublié et il disparaît, quoi.
Oui, c'est sans doute plus efficace de parler, de réfléchir sur l'architecture de l'administration, avec quel poste j'administre, est-ce que je passe par un bastion, comment est-ce que je log les actions, plutôt que la taille maximale du ticket Kerberos. Mais il y a quand même, on a encore aujourd'hui un certain nombre de clients qui veulent avoir un guide de durcissement pour chaque OS.
J'ai vu que vous recommandiez 22 caractères pour les mots de passe administrateurs. C'est un peu la punition, ça, non? C'est pour diminuer le nombre d'administrateurs de domaine.
Non, mais je pense que si on exige 22 caractères pour le mot de passe, ça permet plus facilement après de faire passer la pilule de l'authentification par carte à puce.
Oui, en fait, c'est un prétexte pour imposer le double facteur. Mais pourquoi tu recommandes pas directement le double facteur pour les comptes d'administration?
Je pense qu'on en parle. J'ai pas la citation sous les yeux, mais effectivement, on peut préférer du deux facteurs à un mot de passe de 22 caractères qui va être de toute façon copié-collé depuis un fichier texte. Hein.
On va aussi recommander le plus possible de passer par des bastions d'administration qui peuvent rejouer justement des mots de passe et avoir des mots de passe qui vont être uniques par système. Parce que malheureusement, souvent en termes d'authentification deux facteurs, elle peut être bien implémentée, mais parfois on va avoir des systèmes un peu modifiés maison qui peuvent poser problème. Là, l'idée, c'est vraiment d'essayer de limiter également ce qu'on a pu voir souvent en audit, c'est le mot de passe administrateur qui doit faire au moins 15 caractères, donc il commence par AZERTY UIOP, et à la fin, on met l'année ou autre chose de similaire, avec un petit point d'exclamation pour répondre à la password policy.
Oui, il y a quelques exemples dans le livre de mots de passe qu'il faut changer tous les mois. Alors, le mot de passe, c'est septembre 2016, point d'exclamation. Trouver le mot de passe du mois suivant.
En l'occurrence,
on en trouve vraiment régulièrement. Ça paraît bête, mais c'est ultra fréquent.
Et est-ce que vous abordez aussi les problèmes de vie privée dans Windows ou est-ce que c'est juste la configuration système ?
Non, on n'a pas trop parlé de ces aspects-là. C'est des aspects qui sont en général plus liés à l'individu qu'au monde de l'entreprise et qui se posent notamment sur les dernières versions de Windows, notamment Windows 10, où ça commence à devenir compliqué de désactiver la télémétrie et toutes les données qui s'envoient à Windows. Et c'est une partie que malheureusement on n'a pas pu traiter. C'était encore un peu trop récent au moment de la rédaction.
Il n'y a pas que ça aussi, il y a le passage sur un modèle de patch de sécurité où tout vient en un seul bloc, donc on doit tout installer ou rien.
Oui, alors ça par contre ça date du mois dernier, du coup, enfin en tout cas c'est effectif depuis ce mois-ci même je crois, hein, depuis octobre, donc c'est quelque chose qu'on a abordé dans la revue d'actualité de l'OSIR de la dernière fois, mais qu'on n'a pas pu intégrer dans le livre.
Ouais, bah, Microsoft l'avait annoncé depuis un certain temps, mais effectivement c'est, enfin depuis quelques mois, mais... Mais déjà, pour Windows 10, ils ont tendance à faire des packs de mise à jour. Enfin, avec les Insider Build et autres, maintenant, ils envoient directement la nouvelle version entièrement et ils ne font plus des patchs individuels sur les fichiers, quoi.
Ouais, seulement, on peut encore échapper à ce modèle si on paye très cher une licence entreprise. Mais ce que peu d'entreprises font, finalement.
Bon, ce qui est important pour que les auditeurs comprennent bien le livre, c'est que c'est un livre qui couvre absolument tous les domaines et tous les aspects de la sécurité, pas que Windows. C'est aussi un livre où il y a des chapitres plus historiques sur la sécurité Unix, hein, je rassure tout le monde.
Bah, y a même ça commence dans le premier chapitre sur le full disclosure, faut-il publier ses feuilles de sécurité ou pas, donc... Et il y a des chapitres, effectivement, sur la législation, sur le téléchargement, la création à l'ère du numérique. Enfin, oui, c'est vraiment un sujet... Enfin, tous les sujets sont couverts.
Alors, je voudrais faire...
peut-être l'expertise judiciaire, mais bon.
Je voudrais faire une publicité, c'est-à-dire qu'on a mis dans le bouquin des modèles de politique de sécurité, des modèles de charte des utilisateurs, des modèles de charte de l'administrateur. Bon, ça, c'est des trucs qui sont assez ennuyeux à rédiger, donc il y a des modèles dans le bouquin, il suffit de recopier, hein. C'est pour
Les droits sont conférés, parce que normalement on ne peut pas recopier un bouquin au-delà d'un extrait raisonnable.
Je pense que pour ces chapitres-là la maison Erol devrait ne pas trop faire de ce... il suffit d'adapter un petit peu, hein, c'est... Non, parce que d'expérience, c'est des documents, c'est très important d'en avoir, hein. Toute la jurisprudence montre que les gens qui n'ont pas de charte des utilisateurs, le jour où ils se retrouvent devant le tribunal, eh ben, ils sont sûrs de perdre, hein. Donc c'est bien d'avoir ce genre de documents, c'est pas spécialement amusant à rédiger, il faut faire attention à ce qu'on y met. Bon, voilà, donc c'est pas les chapitres les plus passionnants, mais c'est utile pour les gens qui ont besoin de travailler, quoi. Et puis alors, il y a un chapitre qui me semble aussi, lui aussi, intéressant, c'est le chapitre sur l'identité et l'authentification, avec notamment un développement assez important sur les annuaires LDAP. Alors ça, on l'a vu, revu, etc. Alexandre y a rajouté encore quelque chose au sujet des PKI. Alors ça aussi, c'est un domaine qui est un peu ingrat, mais qui fait partie du boulot. Donc voilà, on a voulu alléger la peine des RSSI et des gens chargés de s'occuper de ces questions-là, qui sont quand même importantes.
Oui, j'ai même entendu dire que la PKI était tendance, qu'on arrivait à vendre des formations PKI en 2016. Donc.
Bah oui, bah la PKI, c'est pas toujours comme on espérerait que ce soit, mais jusqu'à présent, on n'a pas fait mieux, donc on est bien obligé d'en passer par là. Hein.
Ah, c'est même un sujet qui marche vachement bien. C'est un sujet qui a eu un trou pendant 5 ans, et puis maintenant, les formations PKI, ça marche très très fort. Mais il faut dire que tout le monde construit sa PKI, aussi bien au niveau des États qu'au niveau des entreprises, et tout le monde cherche à maîtriser la technologie pour la refaire. Donc ça fait partie... Tu sais, c'est comme la crypto, je veux dire... même si c'est 1% de la sécurité, c'est le pourcent sans lequel il n'y a rien d'autre... Enfin, tout le reste s'effondre. Oui. Et bien aujourd'hui, la PKI, c'est pareil.
Il y a aussi SSL-TLS. Alors, on a rajouté, on a beaucoup modernisé tout ce qui concerne SSL-TLS. Et ça aussi, bon, ben, si on n'a pas SSL-TLS et si SSL-TLS est percé, eh bien, le reste, après tout, peu importe. Hein.
Laurent, en introduction, tu nous parlais de cyberstratégie. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots ?
Oui, alors, bon, alors ça, maintenant, c'est des choses qui sont dans les journaux. Alors, naturellement, j'ai mis à jour ce chapitre après les révélations Snowden, parce que la quatrième édition était parue juste avant Snowden. Hein. Bon, actuellement, tous les états-majors du monde se préoccupent de cybersécurité, même des pays qui sont à un niveau assez bas dans ces questions-là. Tout le monde a bien compris. La fréquentation des militaires m'a appris que finalement, par rapport aux fonctionnaires civils, ils prenaient ces choses-là plus au sérieux et de façon plus professionnelle en moyenne. Il y a des gens sérieux et formés. Bon, alors, il est clair que maintenant, un incident majeur sur le réseau ou sur les infrastructures informatiques d'un pays aurait des conséquences absolument catastrophiques. Hein. Ce serait, si par exemple, supposons qu'une attaque sur l'Internet dans un pays comme la France réussisse à fiche en l'air les communications réseau du pays pendant une semaine, bon, bah, c'est 5 points de PIB, ça veut dire des dizaines de milliers d'entreprises qui déposent leur bilan, et des centaines de milliers de gens au chômage. Hein. Donc ce serait une vraie catastrophe. Donc on ne peut pas négliger ces aspects-là. D'ailleurs, on peut être étonné, les grandes puissances informatiques avancent prudemment. Hein. Je vois, on parle de certaines attaques possibles par les Chinois, etc. Ils pourraient faire bien pire. Hein. Donc ça prouve qu'ils sont très modérés, finalement.
Bon, enfin, alors là, il y a quand même, soi-disant, les États-Unis qui préparent une cyberattaque massive contre la Russie.
Bon, c'est pas fait. Alors, de toute façon, la Russie est un pays tellement sous-développé d'un point de vue informatique qu'à la limite, ils risquent de ne pas être trop affectés par une attaque sur par une cyberattaque. Hein. De toute façon, l'économie russe, c'est pas grand-chose. Hein, donc, bon.
Enfin, on peut supposer qu'une cyberattaque viserait Gazprom et des industriels comme ça, qui sont quand même pas négligeables.
C'est vrai.
Nico ?
Non, mais je suis curieux. Je suis surpris parce qu'apparemment, personne n'a entendu parler de cette rumeur. Et peut-être qu'entre... Enfin, cette rumeur qui est en première page du Washington Post. Hein, mais peut-être qu'à l'heure où l'épisode sera publié, nous serons en pleine cyberguerre et les auditeurs ne pourront pas le télécharger puisque les réseaux d'infrastructures seront détruits.
Bon, bah alors là, il faut quand même remettre les choses au clair. Hein. La guerre, ça n'est pas un jeu vidéo. Hein. Donc, la cyberguerre... je ne doute pas que la NSA et la CIA aient des possibilités d'attaque importantes contre les infrastructures informatiques russes. Mais cela dit... ça ne présente d'intérêt que si on a des objectifs politiques et des objectifs stratégiques clairs. Or, actuellement, je crois que le problème des relations américano-russes, c'est que les Russes, eux, ont des objectifs clairs et des cibles stratégiques précises, hein, et que les Américains n'en ont pas. Donc, le déploiement de technologies et d'attaques informatiques tous azimuts ne donnera aucun résultat intéressant. Donc je crois que le mieux, c'est de ne pas en parler.
Est-ce qu'il y a d'autres aspects dans le livre que l'on n'a pas encore évoqués, ou est-ce qu'il y a des co-auteurs qui n'ont pas encore tout dit sur les parties sur lesquelles ils ont participé ?
Je pense que éventuellement, effectivement, on peut peut-être dire deux mots sur une partie qu'on a déjà évoquée, donc à la fois, enfin plutôt la partie PKI en fait. On disait tout à l'heure que sur la PKI, les choses ne bougent pas, mais elle revient en force. Alors d'abord, ce que je trouve intéressant moi sur la PKI, c'est que en fait, grâce au livre, quelqu'un qui ne connaît rien à la crypto peut, en lisant ce livre, partir donc des fondamentaux crypto pour comprendre sur quoi s'appuie le fonctionnement d'une PKI, et grâce au chapitre PKI comprendre exactement comment marche cette histoire de tiers de confiance, de mise en place de canaux sécurisés. Et on y donne aussi sous la forme des initiatives Let's Encrypt et certifié Transparency des éventuelles évolutions de la PKI qui rendent le concept, qui étendent le concept en la rendant plus transparente. Ce qui, on peut l'espérer, ajoute un peu de confiance dans ce système qui est loin d'être parfait.
Je voudrais dire encore un mot. J'ai aussi mis quelques pages sur quelque chose qui est un peu mon dada, c'est les attaques sur le matériel. On pensait que c'était devenu impossible avec les composants modernes. Eh bien, il y a eu plusieurs articles intéressants et plusieurs preuves de concept intéressantes sur des attaques. Alors d'abord, amenées sur les usines de microprocesseurs, hein. Bon, c'est pas la portée du premier venu, et puis sur le démontage du fonctionnement d'un cryptosystème et sur des moyens matériels de corrompre le fonctionnement d'un générateur de nombres pseudo-aléatoires. Je pense que c'est des choses qu'on verra se développer dans les années qui viennent.
Oui, clairement, parce que de toute façon, le logiciel est de plus en plus sécurisé. Donc aujourd'hui, sur l'iPhone, par exemple, qui a des sécurités matérielles ou autres, il faut descendre une couche en dessous pour continuer à faire des attaques.
Oui, enfin, et puis le matériel, c'est bourré de logiciels buggés, donc.
Oui, il y a de plus en plus d'attaques sur les, comme tu disais Nicolas, sur les Secure Enclave ou les mécanismes crypto, les puces qui sont censées garantir l'inviolabilité au niveau électronique. Des failles aussi, des bugs pour router la Trust Zone sur ARM et des choses comme ça, qui sont les derniers bastions, on va dire, les derniers bastions de sécurité dans un terminal. Aujourd'hui, les attaques se déplacent là-dessus.
En fait, la problématique au cœur des attaques que Laurent mentionne, c'est que en réalité, on ne sait pas tester de manière générique si un nombre est un bon nombre aléatoire. Donc, Randall Munroe, le rédacteur de la bande dessinée XKCD, qui a cette petite bande dessinée, qui tire des nombres aléatoires et qui tire le nombre 4. Voilà. Donc, est-ce que 4 est un nombre aléatoire? Personne n'est capable de l'affirmer ou de l'infirmer. Donc, en fait, derrière ça, il y a beaucoup de choses. Notamment, on sait maintenant que la NSA a travaillé activement pour corrompre, en fait, pour introduire dans les standards de génération de nombres aléatoires des générateurs qui permettaient à eux et à personne d'autre d'avoir accès à cette source de nombres aléatoires et de pouvoir prédire l'avenir, ce qui en fait permet de casser toute la crypto en tout simplement la contournant.
Et je crois que c'est un point important sur les backdoors, c'est le principe du no-boss, nobody but us. Parce que si tu mets une backdoor que tout le monde peut utiliser, c'est l'échec.
Le problème étant que pour travailler, donc c'est un peu tout le débat sur pour ou contre le chiffrement qu'on a à la fois aux États-Unis et puis aussi en France. Typiquement dans ce cas-là, la backdoor correspond au fait de connaître un secret que personne d'autre ne connaît, mais du coup on se retrouve avec une problématique de sécurité plus générale qui est comment m'assurer que ce secret ne sort pas. La preuve étant que si les documents d'Edward Snowden sont sortis, c'est bien que même la NSA n'arrive pas à garantir sa sécurité opérationnelle.
Oui, enfin, après, il y a des exemples plus simples avec Microsoft qui a signé un bootloader qui permettait de démarrer n'importe quoi. Le secret n'est pas vraiment sorti, mais enfin, à la fin, le résultat est le même en termes d'impact. Il y a tout un problème de révocation. Comme si Apple fait une image bootable signée qui permet de faire n'importe quoi avec le téléphone, elle n'est pas révocable après.
Exactement.
Oui, et puis il y a le problème de tout ce qui est le nouveau BIOS qui fait que le vrai système d'exploitation maintenant, il est entièrement sous le contrôle, alors selon les cas de Intel, de d'ARM ou d'AMD. Hein, et ça, ça va devenir aussi un problème extrêmement important. Il y a eu les articles connus de Joanna Rutkowska et sur l'architecture RISC-86. Là aussi, il va y avoir des choses extrêmement inquiétantes qui vont se révéler de plus en plus, et notamment le Intel Management Engine et puis les équivalents chez les autres fabricants de processeurs. Et là, c'est un domaine sur lequel on n'a aucune visibilité et aucun moyen d'investigation.
Un autre point d'intérêt qui peut donner des cauchemars au RSSI, donc qui suit un peu cette vague de virtualisation, il y a toute une littérature un peu bourgeonnante en ce moment sur les attaques sur machines virtuelles qui sont en fait colloquées. Donc, c'est-à-dire à partir d'une machine virtuelle, une machine virtuelle qui est placée sur un host peut en fait obtenir de l'information sur ce que fait l'autre machine virtuelle. Et à partir de ça, on peut récupérer. Donc, il y a une proof of concept de ça qui a été faite récemment, des clés privées de signature en sachant juste le fait qu'on est placé sur le même host que la machine virtuelle qui fait des calculs, des opérations asymétriques.
Bon, ça veut dire qu'il y aura une 16e édition du livre avec toutes les avancées récentes de l'insécurité.
Et avec exactement. Le GDPR et tout. Quoi. Moi, j'ai trouvé quand même qu'il y avait peu de... Enfin, quand on regarde la table des matières, etc., quand même, le côté juridique n'a pas l'air assez... assez détaillé en fait. Il est un peu éparpillé partout.
Ça, c'est parce que tu as envie de participer à la prochaine édition.
Oui, alors réaliser... là, bienvenue au club. Hein. Effectivement, il n'y avait aucun juriste parmi nous.
Oui, c'était une question d'ailleurs.
Mais on est tout à fait prêt à envisager une 6e édition avec un chapitre juridique. Ce serait une excellente idée, je pense.
Parce que je pense qu'avec le GDPR, ça va un petit peu être nécessaire.
Alors, l'évolution de la législation est aussi rapide et aussi foisonnante que l'évolution des processeurs et des logiciels. Hein. Donc voilà, il y a du boulot. Hein.
Alors justement, si on parlait un peu d'évolution, est-ce qu'il y a une 6e édition qui est prévue et est-ce que vous avez besoin de contributeurs?
Alors, une 6e édition prévue, ben ça c'est à l'éditeur qu'il faut demander ça. Là, c'est la maison Erol qui m'a contacté il y a à peu près 18 mois pour me dire que ils en avaient plus, c'était demandé, leur stock était vide, il fallait en vitesse préparer une nouvelle édition. Ce que j'espère, c'est que la demande restera soutenue. Visiblement, on a pas mal d'institutions de formation qui font acheter le livre, parce que je pense que c'est de ce côté-là que vient la demande. D'ailleurs, c'est normal, hein, au départ, c'était un support de cours pour une université, hein, donc c'est logique.
Bon, eh bien, un grand merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci
à tous. Merci à vous.
C'est nous.
Merci à vous. Merci beaucoup.
Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.